Je suis rentrée.
T'as passé une bonne journée?
Oui.
Moi aussi. Je me plais beaucoup dans cette chambre.
C'est vrai? Tu vas pas avoir envie de t'enfuir?
C'est comment, genre?
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Non, je déconne.
Allez. Luna are to vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Luna are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me! Action, pourquoi faire?
Jouer une chouette au cinéma, incarner Marguerite Duras sur scène, se mettre dans la peau d'un autiste de 9 ans ou dans celle d'une jeune fille sans main. Ces deux-là savent tout faire et bien d'autres choses encore. Ils sont acteurs, athlètes complets. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Dans ce beau film, ils n'ont pas le premier rôle et pourtant leur présence y est indispensable. Bonjour Anaïs de Moustier.
Bonjour.
Dans Demain et tous les autres jours de Doémile Volsky, vous êtes Mathilde, la jeune héroïne, quelques années plus tard, quelques minutes à l'écran, mais une présence évidente. Un autre défi sur ce film, être la voix d'un oiseau, d'une chouette chevêche, c'est vous. Bonjour Michel Esco.
Bonjour.
Cette chouette va accompagner Mathilde dans sa solitude et être le témoin de cette histoire d'amour fou entre une fille et sa mère. Vous pourrez découvrir Demain et tous les autres jours, mercredi prochain. Les sorties de cette semaine, dominées par trois belles surprises, A Chambra, Faute d'amour et Kiss and Cry. Avant de se plonger dans ce film, question à tous les deux, Anaïs de Moustier et Michel Esco, je le disais, deux athlètes complets. Est-ce que vous acceptez ce qualificatif, être capable d'entrer dans n'importe quelle discipline pourvu qu'on soit acteur?
Oui, complètement. Non, j'ai mis du temps, parce que je me suis toujours dit que moi, j'avais pas la sensation de pouvoir tout jouer, c'est-à-dire tout genre de personnage, tout type de nature. En revanche, tout faire, ça, je me suis aperçue que le cinéma me conduisait à faire des choses absurdes, des choses avec des animaux, par exemple. Moi, j'ai très peur des animaux dans la vie, et puis tout d'un coup, je me retrouve à mettre la main dans les escargots ou à me faire bouffer par un chien. Enfin, donc oui, je crois que pour un film, on peut se dépasser.
Michel Esco, être capable de tout faire, c'est-à-dire jouer un animal, une voix off, un rôle principal au théâtre, enfin tout.
Oui. Enfin, à partir du moment où c'est intéressant, que ce soit au théâtre, à la radio, partout, je suis tout à fait pour le faire. Après, il y a des choses que moi, j'ai pas envie de jouer. Mais il y a des rôles au théâtre, par exemple, que j'ai pas eu envie de faire, parce que c'est pas quelque chose qui me touche. Mais par contre, le support si c'est très étrange, ça m'intéresse.
Support indifférent. On va écouter d'abord pour entrer dans ce film, la bande originale, Alela Diane, Oh My Mama.
Feathered breaths. Oh, my mama, she told me, use your voice, my little bird. She said, sing, 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 sing melodies. And she sang, 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 melodies. Oh, my mama, she did give me fancy feet I'll be dancing on. And I'll tap, tap, tap my toes into those creaking floorboards. Oh, my mama, she took my little hand and held on tight. All the mamas give the waters of their wells. All the mamas give the babies this very dirt we're walking on. Oh, my mama, she gave me these feathered breaths. And your mama, she gave you those feathered breaths too. And when the sky sky drops all those feathers. And when the birds sing in the morning, I'll be a mama, I'll have a daughter. I'll be a mama, I'll have a daughter. And I'll give her melodies, I'll give her melodies. I'll give her melodies, I'll give her melodies. I'll give her melodies, I'll give her melodies. I'll give her melodies, I'll give her melodies, and she'll be my little bird. And then she'll fly.
Je ne me souviens plus pourquoi on est là.
Pour faire connaissance? J'aimerais que Mathilde vienne me voir de temps en temps pour me parler de ses petits problèmes.
Est-ce qu'on dit « je ne me souviens plus pourquoi on est là » ou « je ne me souviens plus de pourquoi on est là » ? Il vaut peut-être mieux dire « je ne me souviens plus de la raison pour laquelle on est là ». Je n'aime pas avoir ce genre d'hésitation.
C'est tout à votre honneur ?
Non, c'est une faute. On ne peut pas dire « je ne me souviens plus de pourquoi on est là », c'est très laid. Je vous prie de m'excuser, je suis consternée.
Oui, je vous en prie, ça peut arriver à tout le monde. Mathilde est bonne élève, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu de mal à se faire des amis.
Je ne fais jamais, jamais, jamais ce genre de faute.
On peut dire aussi, je ne me rappelle pas pourquoi je suis là.
Oui, ça c'est correct.
Tu es comme ta maman, Mathilde. Tu aimes parler un français impeccable.
Je ne sais pas ce qui a pu me troubler comme ça.
Et comment ça va à la maison ?
Bien. Bien. Je ne fais pas ce genre de faute. Je ne sais pas ce qui m'a pris.
Demain et tous les autres jours, Mathilde, 9 ans, ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa mère, personne fragile à la frontière de la folie. C'est Noémie Bobski qui l'incarne incroyablement, comme on a pu l'entendre dans cet extrait. Accepter un rôle secondaire, Michel Esco, Anaïs de Moustier dans ce film, c'est avant tout accepter un beau projet, non ?
Complètement. Accepter, avoir le plaisir de rencontrer Noémie. Moi, c'est la première fois que je travaille avec elle. Et donc, effectivement, que ce soit court ou long, on a envie de la rencontrer.
C'est quoi, elle ? C'est un mélange de force et de fragilité, force de direction et fragilité, parce qu'elle vous, elle vous dirige dans le jeu aussi, parce qu'elle est avec vous dans le jeu.
Oui, ben moi je dirais que la caractéristique principale de Noémie, c'est sa manière de regarder. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, Micha, mais je trouve qu'elle a une manière de regarder les acteurs qu'elle a choisis merveilleuse. Et elle a, en tout cas, moi, son regard, je trouve, donne de la force, donne de la... Elle regarde avec intensité les gens, elle les aime avec intensité, j'ai l'impression, et ça se transmet, et ça se transforme en quelque chose dans le film.
Mais vous parlez d'un regard pendant qu'elle joue avec vous aussi ?
Oui, tout le temps, non, même en dehors, je sens qu'elle... Le choix des gens qu'elle engage, je pense, c'est très important, et ça se sent, et donc ça donne de l'élan pour jouer.
Dans la tête d'une petite fille, dans la bulle de l'enfance, solitaire et inquiétante, Michel Esco. Et vous allez être le témoin de cette inquiétude et de ce rapport incroyablement fou entre cette fille et cette mère. Mais vous y jouez une chouette. Vous étiez surpris de la proposition? Vous avez hésité?
J'ai pas du tout hésité parce que Noémie, c'est une amie et elle peut me proposer de jouer une chaise. Je crois que j'accepterai. Donc, non, ça m'a, enfin, et la connaissant sa fantaisie aussi, j'étais surpris en lisant le scénario par la beauté, enfin voilà. Mais après, quand elle m'a proposé d'interpréter la chouette, je savais que ça allait être un petit peu spécial parce que ça allait pas être un travail comme dans un dessin animé, juste de doublage. Elle m'a dit très vite, il faut que tu sois sur le plateau, il faut que tu viennes, on va inventer un dispositif. Voilà, pour que tu sois vraiment... Et puis j'ai répété avec Luce Rodriguez. On a vraiment créé un rapport, quoi, pour que je sois son ami. Enfin,
vous avez préparé au Jardin des Plantes en allant voir des...
Alors non, j'ai pas eu besoin de faire un travail animalier.
Pardon. Mais ce qui est fou dans le film, je trouve, ce qu'on sent vraiment, c'est ce travail-là qu'ils ont fait. Ouais. En fait, un travail qu'on fait quand on est acteur dans un film, de construire une relation et un rapport. Et c'est magnifique, parce qu'en fait, il n'y a qu'au cinéma, je trouve, qu'on peut faire exister des liens comme ça, quoi. Et donc là, cette chouette, elle existe tellement. C'est tellement l'ami du personnage principal. C'est tellement le confident. Ouais. C'est magnifique de voir ça.
On va écouter l'extrait où justement elle se rend compte, la petite fille, que cette chouette parle.
Bonne nuit, ma chérie. Tu gèles.
Papa ? C'est toi qui parles ?
Bah, qui veux-tu que ce soit ?
J'ai peur.
Je veux pas si peur que ça.
Tadam !
Maman !
Non !
Maman !
Non, attends, attends !
Maman !
Oui ?
Mon oiseau parle !
Il a ululé ?
Non, il a parlé. Parle encore. Dis bonsoir à ma mère. Dis-lui bonsoir.
Il est tard. Il faut te coucher. Bavardez pas trop tous les deux.
Mais... ma mère va penser que je suis folle.
Excuse-moi, mais c'est plutôt ta mère qui est folle. Je plaisante. Je plaisante, Mathilde. Je faisais une blague. Par ailleurs, oui, ta mère est un peu folle. On peut se parler franchement, toi et moi. Tu crois pas ?
Pourquoi tu lui as pas dit bonsoir ?
Parce qu'elle ne m'aurait pas entendu. Il y a que toi qui peux m'entendre. Que toi. Que toi. Que toi.
Tu me parleras demain aussi ?
Demain. Et tous les autres jours.
Michel Lescaut, j'ai appris que la chouette chevêche avait trois paupières et que parfois, il paraît qu'elle s'endormait pendant les prises.
Elle s'endormait au travail avant cette émission.
Parfois, elle regardait la caméra. Et alors là... ils essayaient de la distraire avec un bâton, une souris morte, parce qu'il y a un dresseur, et elle bougeait pas. Parce qu'elle est, elle a du caractère, hein.
Pas, et parfois, justement, elle bougeait, il fallait improviser.
Il fallait improviser, voilà. Ouais. Moi, j'avais deux caméras, en fait, j'avais le plan, voilà, que le chef opérateur faisait, et j'avais une caméra qui était sur la chouette, et je pouvais improviser, et il fallait même que j'adapte un peu mon phrasé à la gestuelle de la chouette, qui, de temps en temps, fait un petit à-coup, et il fallait pouvoir rebondir dessus, sinon c'était pas drôle. Et lui, ça avait une oreillette et elle m'entendait dans l'oreillette.
Ah, c'est ça. Ouais. Ah ouais, il y a quelques mètres, quoi.
J'étais dans une pièce à côté. Après, j'étais souvent, quand on pouvait, je venais dans la pièce principale pour la voir dans les yeux ou voilà. Sur un contre-champ, on pouvait le faire, mais. Ouais.
Dans l'Antiquité, la chouette, c'était un symbole de sagesse. Et c'est vrai que cette chouette, elle joue un peu le rôle, vous jouez un peu le rôle d'un sage.
Oui, oui, un peu. Enfin, c'est son ami, quoi. Moi, j'ai vraiment vu ça comme un ami, un confident, un ami, pas forcément un sage, mais qui aussi a sa fantaisie. Enfin, elle lui fait faire des trucs un petit peu bizarres parfois.
C'est aussi elle, c'est une sorte de voix intérieure.
Oui, oui, ah bah,
quand elle dit ma mère est folle.
Enfin, ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais.
C'est une grande bienveillance, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Quand même.
Ouais.
Anaïs, vous, pourquoi Anaïs, demande-t-on à Noémie Lvovsky, qui répond, elle a une énergie de petit taureau.
Ah bon ? Pas trop drôle.
Une énergie terrienne, comment vous le prenez ?
Une énergie terrienne, oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est marrant parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai, pour l'instant, trop exploré dans les rôles qu'on m'a proposés. J'ai l'impression de plus jouer des filles qui sont rêveuses ou qui sont un peu dans les nuages. Et là, c'est vrai que j'étais très contente de devoir prendre la suite de Luce Rodriguez pour ce rôle-là parce que effectivement, il y a chez cette jeune fille dans le film un côté très terrien, très... ancré dans le sol. C'est une petite fille qui est vaillante, qui est frondeuse, qui a du caractère, qui a une manière de dépasser les épreuves qu'elle est amenée à traverser, je trouve assez, assez courageuse. Et donc oui, je pense que j'ai cette énergie-là, je suis un peu sportive, enfin ouais, j'aime bien... ouais, je suis dynamique.
Et donc exister, je le disais au début, exister quelques minutes et vers la fin du film, il faut que la présence soit... absolument évidente. Il faut que ça soit évident que vous soyez Camille un peu plus âgée.
Mathilde.
Ouais. Mathilde, pardon. Et vous l'avez énormément observée parce que même dans votre... vous avez la même démarche qu'elle, par exemple.
Oui, il paraît. En fait, je crois que je l'ai beaucoup observé.
Vous répondez « il paraît » C'est-à-dire que ça
oui, je réponds
pas... «
il paraît » parce que moi, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on m'a parlé de cette démarche. Enfin, le père de l'actrice m'a dit « c'est fou, vous marchez comme Luce » et tout ça, donc j'étais flattée. Parce que c'était le but. Moi, en fait, quand Noémie m'a proposé, j'étais un petit peu inquiète de ça, parce que j'avais été un peu traumatisée par certains films où on suit un adolescent et où à la fin arrive un acteur qui est patatras, le truc, ça fait tout retomber, c'est nul, on n'y croit pas du tout, enfin, c'est une cata. Donc je me dis, oula, au secours. Et en fait, ça m'avait fait ça pour Billy Elliot notamment. Billy Elliot, on s'attache tellement aux gamins et tout, à la, je sais pas, il y a quelques minutes à la fin, on dit, oula, le pauvre acteur, il est catastrophe. Donc bon, je savais que c'était un petit défi et en même temps, comme je le disais, Noémie est. Elle est intelligente dans ses choix, donc je pense que moi, j'avais pas grand-chose à faire. C'est parce qu'elle a vu, je pense, en Luce et en moi, alors qu'on ne se ressemble physiquement pas vraiment, une vraie parenté, quoi, un truc de filiation possible. Et donc, effectivement, je l'ai observé beaucoup et j'ai essayé de sentir un truc de sa nature, plus que d'essayer de la singer. J'ai essayé de voir... Mais c'est le personnage qui nous relie, c'est ça qui est magique. C'est qu'en fait, le personnage est là, et donc, bah voilà, moi, je me suis attachée au personnage. Et donc, j'ai pris la suite de Luce avec ce personnage qui a des traits très distincts, qu'on a décrit déjà. Elle est frondeuse, elle est vaillante, elle est vive, elle est...
On va écouter un extrait entre vous deux.
Où est passée ta première dent de lait ?
Une souris l'a enterrée au fond d'un bois.
Ma fille, où sont passées les larmes de ton premier chagrin ?
Ta main les a séchées. Le vent a séché ta main. Elles se sont évaporées et sont retombées en pluie un peu plus loin.
Ma fille, où sont passés nos jours, nos nuits ? Tes cauchemars et tes anniversaires.
Ils se sont enfermés dans une boîte au fond de la mer.
Tous les deux, vous avez vu le film, bien sûr. Et vous, Micha, vous l'avez vu cet été dans un grand festival.
À Locarno, sur la Piazza Grande, devant 9000 personnes.
Ouais.
Incroyable.
En plein air.
En plein air. C'est fou. Incroyable.
Et vous avez l'impression, même avec ce rôle, cette voix, d'être complètement tous les deux à l'intérieur de ce film.
Ah mais alors totalement, mais même j'ai l'impression de... Enfin, c'est... parfois les acteurs n'aiment pas se voir à l'image, donc en plus là, je n'ai pas à subir...
Vous êtes très mignon à l'image,
moi, je suis très gentil, mais là, je m'étais complètement identifié à la chouette, et même à la... au bout d'un moment, elle arrête de parler, et j'avais l'impression de voir mon personnage. Enfin, c'était une sensation... c'est merveilleux, enfin, c'était un plaisir de voir le film.
Le film est co-écrit avec Florence Sévaux, je crois qu'il faut le dire, parce que c'est un film très bien écrit. Et c'est peut-être pas forcément le cas de tous les films français. J'imagine que pour les acteurs aussi, c'est important de lire des beaux textes.
Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais ce qu'il y a de... Moi, quand j'ai lu les quelques pages que j'avais à jouer, c'est drôle parce que j'ai dit à Noémie, ça m'a fait le même effet que des chansons de Barbara. Et je valorise beaucoup Barbara, que j'aime énormément. Et en fait, j'ai essayé de comprendre après pourquoi ça était venu chercher en moi quelque chose de cette émotion-là. Et je crois qu'en fait, c'est parce qu'elle raconte quelque chose de très intime. Elle livre quelque chose d'elle. Et par la magie du cinéma, ça devient universel. Et le film, en fait, nous parle de toutes les mères, de toutes les filles. Et le film devient plus large qu'une histoire très singulière. Et ce mélange d'intimité, voilà, ça me fait penser à, par exemple, Rémusa de Barbara ou Mon enfance, enfin, 1000 chansons qu'elle a écrites dont on sent qu'elle raconte vraiment des choses à elle et qu'elle partage très bien, quoi. Enfin...
C'est un portrait unique sur l'enfance, Laurent. C'est-à-dire que d'un coup, c'est une vision assez noire qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma.
Oui,
et à la fois un conte.
Oui, un conte un peu cruel avec des incursions oniriques et poétiques qui sont magnifiquement faites. Moi, j'avoue, j'ai toujours un peu de réserve sur ce genre de choses. Et là, ça marche très bien, Michel Escou.
Je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est la poésie de, c'est l'univers de Noémie aussi et de Florence, certainement Florence Sévaux. Et non, je suis. J'ai rien à ajouter.
Vous aviez déjà joué donc avec...
Dans Camille Redouble.
Ben on va écouter un extrait, justement.
Non. Je dis non pour la deuxième fois parce que votre partenaire me demande la même chose. Moi, je réponds non. Trop tard. Vous avez pris un engagement. Si à votre âge, vous n'êtes pas capable de tenir un engagement, ça ne cure rien de bon, je vous le promets. Vous pouvez évidemment m'apporter un certificat médical bidon. Je serai obligé de l'accepter. Je l'accepterai avec colère, mépris. J'aurais pas le choix. Viens, viens voir, toi. Viens voir. C'est extraordinaire. Figure-toi que ta partenaire me demande la même chose que toi. Elle aussi veut se faire remplacer à 2 semaines de la représentation. Moi, bien sûr, je lui dis non. À elle aussi, non. On ne se fait pas remplacer à 2 semaines de la représentation. Non, c'est impossible. Que vous souciez l'envisager, ça me met dans un état de rage que vous pouvez même pas imaginer quand on a pris un engagement au tien.
Mais dans la vie, on se parle plus, alors replonger ensemble, c'est pas facile.
Ah, vous vous parlez plus?
Non.
Ben maintenant, vous allez vous parler.
Théo.
Là. Vous vous démerdez comme vous voulez. Mais maintenant, vous allez vous parler. Et dans 5 minutes, on reprend. 5 minutes. Et Camille, tu m'enlèves ces gants. S'il te plaît, il me stresse. Il me donne mal à la tête.
Michel Escaut, vous êtes inspiré de profs de théâtre que vous avez rencontrés, parce que vous en avez fait beaucoup.
J'en ai fait beaucoup, oui, des profs de théâtre, des acteurs, des gens comme ça que je ne citerai pas, mais oui, c'était un mélange de...
Ah, vous avez déjà eu des énervés comme ça
qui... Oui.
Mais vous avez un peu le débit que peut avoir, à mon avis, Noémie Lvovsky.
Peut-être, c'est possible.
Sur un énervement, comme ça, une montée en puissance.
Oui, c'est vrai. On avait mis 4 jours à tourner cette scène.
On entend Samir Ghesmi.
Oui, parce qu'il fallait monter, et on avait séparé la scène en 3, et il fallait monter en intensité à chaque fois. Et finalement, on se met soi-même dans un état, on est énervé à la fin. Mais ça, c'est on joue, hein, évidemment. Oui. J'ai rien contre l'acteur avec qui je joue. Mais Noémie, elle sait très très bien faire monter la sauce pour être dans un état jubilatoire de colère, en fait. Et je trouve que c'est bien par rapport à son travail. On se fait pas mal, mais on arrive à faire une espèce d'énervement. Enfin, on atteint des stades assez élevés. Et c'est du jeu, évidemment.
Vous avez fait beaucoup de théâtre, bien sûr. Ouais. Hein. Qu'est-ce qu'on va citer, Laurent? Théâtre, Ionesco, Marivaux, Pinter,
Tchekhov,
bien sûr.
Molière, oui, quand même. Hein.
Et vous aussi, Anaïs de Moustier, on va même écouter un extrait de vous sur scène dans Démon de Lars Noren.
Qu'est-ce qu'on va faire? Être ensemble.
Il y a si longtemps que j'ai pas parlé avec un adulte que j'en ai presque oublié comment c'est. Moi, à la maison, je suis presque obligée de parler comme les enfants toute la journée. Quand mes amis me téléphonent pour me raconter ce qu'ils ont fait ou les films qu'ils ont vus, quand ils me demandent comment je trouve les films qui passent, mais je sais même pas de quoi ils parlent. Moi, je peux leur proposer que Blanche-Neige ou Cendrillon. Quant au théâtre, n'en parlons pas.
Non.
Oh non, j'ai de telles difficultés à comprendre ce qu'ils disent. En plus, c'est affreusement cher si on a besoin d'un babysitter. Moi, je trouve qu'ils sont trop petits. Mes escapades se réduisent à descendre les ordures, aller chez grand-mère avec Sarah ou acheter des couches. C'est pour ça que c'est formidable là, d'être assise ici, simplement, tout simplement, puis de me laisser aller, quoi, sans être tout le temps sous tension. Vous n'imaginez pas comme c'est apaisant, je pourrais m'endormir.
Nous sommes là si tu as besoin d'aide.
Quel genre?
Babysitting.
Vraiment? Ouais, t'as qu'à demander. Ah oui, je le ferai s'il le faut. Enfin, je veux dire, s'il nous arrive un jour d'avoir envie de sortir.
C'est normal.
Oh. Oui, ce que tu as acheté, ces chaussures, elles sont ravissantes.
À Rome, tu les trouves partout à moitié prix.
Ouh, je recommence à transpirer. Oh, je ruisselle. Je suis toute humide. Hier, j'ai pensé que j'avais la chemise d'un bûcheron dans la main, mais c'était la mienne. Moi qui étais si fière de jamais transpirer, en fait, j'avais un problème avec mes glandes. Et maintenant, rien qu'à réfléchir, je suis déjà complètement trempée. Mais ça vient sûrement de ma grossesse.
Non, mais il fait chaud aussi.
Qu'est-ce qu'il fait, toi?
Les voix qu'on entend, c'est celle de Marina Foïs et Romain Duris. Ce qui est génial avec vous, Anaïs de Moustier, c'est que vous avez cette tonalité au cinéma et au théâtre. Il n'y a pas de décalage, c'est vous partout, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un ton théâtral.
Ah bon? Ok. Ouais.
Lucha.
Oui, c'est vrai. Mais je l'avais vu, la pièce.
C'est une prise d'otage. Je ne veux pas dire non, elle est très mauvaise.
Anaïs de Moustier, vous avez dit oulala quand on vous a dit qu'on allait écouter un extrait. Pourquoi oulala?
Parce que je trouve ça très difficile d'entendre sa voix en général. Déjà, écouter des extraits de cinéma, je trouve ça atroce. Alors, un extrait de théâtre, pour moi, c'est vraiment la punition. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. C'est pas très agréable de s'entendre. Voilà, je suis assez sévère avec moi-même, je crois.
Mais les défauts qu'elle émet sur le théâtre, vous les avez pas. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas. Vous voyez, au théâtre, parfois, on peut. Et là, il y a une modernité que vous apportez sur une scène comme sur un plateau de cinéma. Comme s'il n'y avait pas de. C'était pareil, quoi, pour vous.
Bah, Ouais, peut-être. En tout cas, c'est vrai que j'ai travaillé avec des gens qui aiment bien le cinéma. Peut-être que c'est ça, les metteurs en scène avec lesquels je travaillais, Martial Di Fonzobo, Christophe Honoré. C'est des gens qui aiment le cinéma et qui font pas de différence. C'est vrai que, comme le disait Micha tout à l'heure, c'est agréable de passer du théâtre au cinéma. Enfin, voilà, que les supports, en fait, soient pas... ne définissent pas une manière de jouer. Et puis voilà, c'est surtout la rencontre avec un texte. Et à chaque fois, un texte nous... C'est nous qui le disons, donc on apporte quelque chose de nous.
Alors, rencontre avec un texte, Michel Escaut, celui de Gaston Lagaffe, par exemple, oui. dont vous avez fait la voix, et dont on va écouter un extrait.
Bien, alors, où est-il, ces dictionnaires, Lagaffe ?
En ordre, bien en ordre, dans le bas de la grande armoire.
Et le bidon ?
Ça, c'est ta faute. Tu veux toujours que je range tout en vitesse ? Moi, je panique.
Bref, vous avez mis le bidon sur les dictionnaires, couché à l'horizontale.
Obligé, il n'y avait pas la place pour le ranger debout.
Bien sûr, vous ne vous êtes pas demandé si le bouchon était bien lissé. Oh, tu te tues ! Prenez ces bouquins et disparaissez hors de ma vue, primate primitif ! Vous êtes trop bête!
Sois sympa avec les animaux.
Silence! Et vous me rachèterez avec vos soins, vous, la série complète de ces dictionnaires! Plus, un nouveau bidon de cette excellente colle américaine.
Ça rapporte la télé, Michel Escaut.
Ça, ce genre de choses. C'était très drôle parce qu'il n'y avait pas d'image, en fait. J'étais très libre, je l'ai fait avant l'animation. Donc en fait, pendant cette période-là, je travaillais sur Proust. Et du coup, je faisais la passerelle entre Marcel Proust et Gaston Lagaffe. Et je me suis dit, là, c'est vraiment super comme métier, finalement, de passer de l'un à l'autre. Mais c'est vrai, hein. Et du coup, ils s'adaptaient à mon planning, ils étaient adorables. Et je venais, et je dormais un peu, et après, on enregistrait des trucs de Gaston Lagaffe. Et après avoir dormi, c'est plutôt bien, parce qu'on est dans l'état de Gaston Lagaffe.
Tu dormais sur le plateau?
Oui, un petit peu, parce que j'étais fatigué. Mais ils étaient hyper sympas. Mais vraiment, c'était des gens merveilleux. Et ils s'adaptaient complètement à mon planning, et on enregistrait, des épisodes de Gaston Lagaffe. Voilà, je passais de Proust à Lagaffe, mais j'étais assez content.
C'est marrant, sinon vous avez fait un gros travail sur le corps, mais c'est marrant parce que vos influences sont complètement américaines. Gene Kelly, Fred Astaire, Michael Jackson, Jim Carrey, Sacha Baron Cohen, Jerry Lewis.
Oui,
et qu'ils ont quoi en commun, tous ceux-là?
Alors, pas tous, mais
pas
enfin,
tous,
ils sont drôles.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, c'est une manière de... Moi, j'aime bien, voilà. Après, Michael Jackson, il n'est pas drôle. Mais,
non, c'est ce que j'allais dire.
Non, il n'est vraiment pas drôle.
Ils ont un corps qui s'exprime.
Ils ont un corps qui s'exprime, exactement.
Voilà. Tous.
Voilà, exactement.
C'est ça la géographie...
Je pense que ça m'a touché quand j'étais jeune, ouais.
Sinon, tous les deux, vous avez un acteur et une actrice que vous mettez un petit peu en haut de tout. Vous allez me dire si c'est vrai, c'est Isabelle Huppert et Gérard Depardieu.
Oui.
Vous avez joué avec,
oui,
Gérard Depardieu.
Oui, à l'opéra. On a fait le récitant dans un opéra. Du coup, on a passé pas mal de temps ensemble. Et c'était incroyable.
Qu'est-ce qui est incroyable avec lui?
Avec lui, c'était... moi, je répétais. Lui, il répétait pas, déjà. Moi, j'avais répété 15 jours. Lui, il avait pas répété. Il lisait. Moi, j'avais appris le texte. Et je le regardais faire. Je me disais, si quelqu'un fait la même chose que lui, ça sera horrible.
Catastrophe, ouais.
Et lui, c'était gracieux. Et je peux pas expliquer pourquoi. Mais c'est-à-dire qu'il y avait de la musique et tout, et il arrivait à, sans répéter, enfin, il entendait une fois la musique, il arrivait à prendre tellement de choses en compte, et à adapter son phrasé à la musique, et à tout intégrer le décor. Je le regardais faire, je me disais, mais il avait un instinct, on le dit tout le temps, mais je l'ai vérifié, quoi. Donc j'étais spectateur, je jouais beaucoup avec lui, mais je le regardais tout le temps.
Vous, Anaïs de Moustier, vous avez passé des essais avec lui pour un film qui s'est pas fait.
Oui, ouais, il y a longtemps.
Et donc vous lui avez donné la réplique.
Oui, enfin ouais, pareil, il lisait. Hein. non, mais c'est génial, ça durait vraiment un quart d'heure, mais je me souviens que pareil, j'étais fascinée. Exactement, c'est-à-dire qu'il disait des phrases et ça avait une saveur particulière, et je sais pas, c'est très mystérieux. Puis une manière de regarder, moi je me sens qu'il me regardait et que c'était comme du présent, mais plus, quoi, une sorte de présence hallucinante.
Et il y a également cette silhouette, enfin pas une silhouette, cet exemple très important pour vous qui est Isabelle Huppert, avec laquelle vous avez joué dès le début quand vous aviez 13 ans chez Haneke. Donc on a trouvé un extrait en fait avec Huppert et Depardieu. Mais bien sûr, Loulou.
Cool.
Ah.
Ça va? T'as pas trop mal?
Si.
Non, c'est vrai?
Si.
T'as fait très mal? Ça t'a fait mal quand tu t'es recousu?
Il est chaud ici. Il y a à boire.
Tiens, il y a de l'eau à côté.
soin. À tiède.
Ah, j'y peux rien.
Fais-moi une petite place.
Ah. Je peux pas remuer bien. Là, vas-y.
Ça va?
Ça va très, 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 très bien. Ça va? Ah.
Je n'ai pas comme ça.
T'es heureuse?
Ah ben non, je suis triste.
On touche pas.
Mais non, mais je te sens une caresse.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire, Anaïs de Moustier, là-dessus? C'est votre, un de vos films fétiches.
Oui, il n'y a rien à dire. Oui, c'est mon film fétiche. C'est un de mes films fétiches. Ouais, c'est merveilleux de les voir, avoir autant de plaisir à jouer ensemble.
Vous voyez qu'à la radio, ça peut être bien aussi.
Il y a Guy Marchand aussi qui est génial.
Oui, bien sûr. Vrai. Tous les deux, vous êtes dans le film de Noémie Lvovsky qui s'appelle Demain et tous les autres jours. Il sort mercredi prochain.
Et il faudra se précipiter mercredi prochain pour aller le voir. C'est un très beau film. Vraiment.
On se retrouve pour les sorties après Benjamin Clementine, Clémentine, comme vous dites, avec Jupiter.
Then it's an alien with extra ability. First time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing America a happy. About shooting stars and spoke like a true bard. Sit and play with songs. Music is not marked as fierce toy. Tear joys. Wishing Americana happy.
Ce mercredi, alors on va commencer par une super surprise à Chambra de Jonas Carpignano, auteur déjà du très remarqué Méditerranéa, sud de l'Italie, en Calabre, une communauté rome vivant au milieu de la décharge, une famille au centre, le jeune Pio, 14 ans, qui se rêve caïd et qui va prendre la relève lorsque son frère sera arrêté par la police. Bref, devenir à 14 ans chef de famille. L'énergie du film est absolument hallucinante. Jeunes enfants qui n'en sont plus. Ils fument et trafiquent des voitures, repas familiaux survoltés, la police qui débarque et Pio et son regard intense entre sa famille et le camp de réfugiés burkinabé à côté et son amitié avec l'un d'entre eux. Un type merveilleux à Aïva, il s'appelle dans la vraie vie, que Carpignano avait suivi dans Méditerranéa. Bref, des grands et forts personnages de cinéma puisés dans la vraie vie et dirigés dans leur milieu naturel, avec une sensation unique, Laurent, pour nous spectateurs, d'assister, de vivre une expérience intense.
Oui, parce que au fond, on pourrait à la limite taire cette idée que c'est du documentaire.
Oui, parce que moi je le savais pas.
Exactement.
Avant.
Ouais. Il faudrait y aller. Alors tant pis, on est en train de le spoiler. Comme
non,
on dit.
Non.
Mais, bon, mais c'est pas grave parce que c'est pas le propos non. principal. Mais ça c'est pour aller dans votre sens, c'est-à-dire pour dire ô combien effectivement on approche d'un sentiment de réalité, d'immersion dans cette bande de quart monde de Tzigane, assez proche d'ailleurs dont la façon dont un Français, Jean-Charles Hue, l'avait filmé dans ce là aussi cet objet documentaire fictionnel qui s'appelait la BM du Seigneur. C'est pareil, c'est-à-dire on atteint cette façon de filmer avec une immense douceur des choses extrêmement dures, extrêmement graves, extrêmement fortes. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, moi, j'ai une toute petite réserve sur la longueur du film. Je pense que ça aurait pu être un tout petit peu moins long, mais néanmoins, c'est vraiment ce qu'on peut voir de plus beau, à mon sens, en tous les cas, cette semaine au cinéma et depuis même un certain temps.
Et ça ressemble aussi à du Scorsese, et d'ailleurs, Scorsese est coproducteur du film,
oui.
Et il s'est pas trompé de parrainage.
Il a bon goût, le bon gras.
Des rêves sans étoiles, c'est un doc iranien, Laurent.
Oui, absolument. Alors, on a beaucoup. On a quelques nouvelles iraniennes de fiction de temps en temps, peu en matière de documentaire. Et là, c'est une curieuse plongée dans une prison, donc à l'iranienne, c'est-à-dire c'est tout sauf chez les bisounours, et une prison pour adolescentes iraniennes, uniquement donc des jeunes femmes iraniennes, dont certaines ont été battues, violées, dont d'autres sont des dealers, des drogués, enfin bref, c'est un environnement pour le moins lourd. Le défaut, ce pourrait être, et ce ne l'est pas, une sorte de voyeurisme, de choses un petit peu faciles par rapport à cette population. Ce qui est très intéressant, c'est que le cinéaste laisse la parole à ces jeunes femmes, il les filme longuement, se raconter, il y a forcément donc presque une thérapeutique qui se joue, et puis au fond, on sent bien que ce qui se passe aussi, ce qui se joue devant nous, c'est presque une émancipation, en tous les cas, une sorte de solidarité féminine forte par rapport à l'extrême embarras, c'est un mot beaucoup trop faible, dans lequel elle se trouve.
Faute d'amour du russe Zviagintsev, un couple de petits bourgeois se sépare dans la douleur des disputes pialesques, d'une grande violence verbale, et au milieu, leur fils de 12 ans, Alyosha, négligé, maltraité, et qui va disparaître peu de temps après le début du film, et dont on n'oubliera pas l'intensité du regard. Fugue, enlèvement, part à sa recherche, en même temps que l'on découvre les parents, leur égoïsme, leurs mensonges, leur lâcheté, chacun accusant l'autre de négligence. Le tableau est cruel. Est-ce la Russie d'aujourd'hui une société d'individualistes comme ses voisins européens? Définitivement oui pour Zviagintsev dans sa démonstration implacable. Et Laurent aussi, il faut signaler une scène au début, on ne la révélera pas, mais qui nous a fait tous sursauter à Cannes, à la projection.
Oui, avec du vrai cinéma, comme c'est en faire Zviagintsev, ça c'est pas douteux. Moi, j'ai peut-être un sentiment de bémol par rapport au film précédent, Elena et Léviathan. Je trouve qu'il n'arrive pas à ce niveau-là, et singulièrement avec la description un peu trop pesante, à mes yeux, de cette milice, pas armée évidemment, mais qui pallie tous les inconvénients ou toutes les inconséquences, plus précisément.
Il y a la police qui ne veut pas s'occuper de ça.
Exactement. Alors, la description de cette milice, dont on voit bien que Zviagintsev veut en faire une sorte de bras armé, de choses qu'il faut valoriser, qui existe, hein, qui est une vraie milice. Pour le coup, je trouve que sa complexité, moins bien mise à l'œuvre. Mais bon, c'est son propos général.
Un doc encore, Laetitia de Julie Talon. Laetitia est championne du monde de boxe thaï depuis un mois, certains l'appellent Miss Univers.
Oui, alors c'est un documentaire. Hein.
Ouais.
Il faut le préciser. C'est sûr.
C'est
sûr. Non, mais il faut le préciser en insistant bien parce que ça a une volonté documentaire. Il n'y a pas énormément du coup de cinéma, mais c'est pas très grave parce que ça n'est pas le propos général du film. Au fond, et sans mauvais jeu de mots, vous savez, je crois qu'en boxe, il faut se tenir à la bonne distance, hein, sinon on finit au tapis. Même en boxe thaï, ben j'ai l'impression que effectivement la cinéaste se tient à la bonne distance de son personnage principal, c'est-à-dire que c'est ni dans l'empathie ni dans l'exotisme total, et qu'au fond, elle arrive à nous intéresser à ce parcours adolescent d'une jeune fille confrontée. C'est drôle parce qu'on va parler bientôt, tout de suite, d'un autre film qui s'appelle Kiss and Cry et qui n'en est pas loin du tout.
Ouais, de Lila Pinel et Chloé Mailleux. Il y a toujours un moment, moi, qui me scotche dans le patinage artistique, c'est lorsque les patineurs, après leur présentation, rejoignent le petit carré, embrassent leur entraîneur et, totalement essoufflés, attendent désespérément leur note. Kiss and Cry, c'est justement le nom de ce petit carré des supplices, des sacrifices qui ont été consentie par ses garçons et ses filles depuis l'enfance et que, justement, ces deux réalisatrices, dont c'est la première fiction, savent si bien décrypter autour de Sarah qui reprend à 15 ans le patin de haut niveau au club de Colmar, Sarah Brahms, patineuse dans la vraie vie, 15 ans, donc entre la discipline de fer, donc patin matin, midi et soir, et l'envie adolescente de s'affranchir, milieu clos, violence et coups bas, entraîneurs diva et sadique. Grâce à leur background documentaire, tout sonne juste dans ce film, moi je trouve, Laurent, qui se paie le luxe en plus de construire une fiction au milieu et même une pincée d'onirisme.
Oui, c'est pas la fiction qui m'intéresse le plus parce que je trouve qu'on pense un peu trop parfois à Pauline Sarrache, par exemple, des choses comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est toute la partie, si je puis me permettre, sur les patins, et ouais, notamment avec la figure de l'entraîneur. Alors là, l'entraîneur, qui est quasiment en voix off, quasiment ouais, hors champ tout le temps, mais ouais, qui est une sorte de dictateur incroyable et qui vit, on aurait presque envie que ça soit lui le personnage principal du film.
American Assassin de Michael Cuesta. Alors, adapté d'une saga littéraire à succès, celui-là se veut un peu le préquel, l'origine du dit héros. C'est un type, un jeune type qui voit sa fiancée se faire tuer dans une attaque terroriste sur une plage. Ça, c'est la scène d'ouverture et décide de se venger tout seul, puis cornaqué par la CIA. Bref, l'attentat et les terroristes servent ici de terreau à sa vengeance, un prétexte scénaristique à cette série B survitaminée et politiquement, je dirais, irresponsable. Un cinéma burné et décérébré, bien loin. Non, mais vraiment bien loin, par exemple, d'une série comme Homeland, où, avec les, vous rappelez, les angoisses existentielles de son héroïne, qui paraissent à côté de ce film du très grand art. Ça s'appelle American Assassin. L'un dans l'autre, c'est français, c'est signé Bruno Chiche, c'est un body swap, c'est un genre, un film d'échange de corps.
C'est ça.
Exemple dans la peau d'une blonde ou ce que veulent les femmes pour ne citer que les moins mauvais. Jouer avec les stéréotypes masculins, féminins, pas beauf pour autant, on pouvait craindre le pire, mais une enfilade de stéréotypes incroyables. C'est-à-dire que c'est une deux amants, l'un devient l'autre et l'autre devient l'un, quoi. Femme devient un homme et l'homme une femme.
Je crois qu'en plus c'est vrai parce que je trouve que c'est une contagion télévisuelle, hein, parce que c'est ce que nous fait Canal+ ou M6 depuis des années. C'est-à-dire je suis noir et je deviens blanc, je suis patron et je deviens ouvrier, je suis Philippot et je deviens gaulliste. Non, pardon, ça ils l'ont pas encore fait. Je suis femme et je deviens un homme et réciproquement. Ça n'a strictement aucun intérêt dès lors que la situation elle commence et puis quoi, et puis rien, et puis une enfilade comme vous disiez de clichés, de mauvais clichés sur les gens, surtout pas de point de vue bien évidemment,
totalement neutre,
voilà, totalement neutre, et on est du coup dans le clip à la Canal+ ou à la M6 et ça n'a strictement aucun intérêt. On se demande bien pourquoi cette comédie envahit les écrans quelque part quand même, on peut poser la question.
Avec Luce Bourgoin, Stéphane de Groot, Pierre François Martin Laval. Et une reprise, alors une grande reprise, La solitude du coureur de fond de Tony Richardson.
Mais oui, c'est l'un des films emblématiques de la nouvelle vague anglaise des années 60, celle qui a inspiré Ken Loach notamment. Hein. Deux autres films suivront, Samedi soir dans la nuit et Un goût de miel. Il faut aller voir cette nouvelle vague sur grand écran anglaise si on ne la connaît pas encore et la redécouvrir sur grand écran bien sûr.
On va terminer avec deux cadeaux. En fait, ça va être cinéma.
Des cadeaux théâtre et cinéma, voilà, parce que Lina a la très très bonne idée d'activer une collection qui s'appelle Filmer le théâtre. Et donc, pour Anaïs de Moustier, Elvire Jouvet 40, c'est par de Louis Jouvet, conception et mise en scène Brigitte Jacques, réalisation Benoît Jacquot, s'il vous plaît, avec Philippe Clévenot et Marianne Médéraud, c'est-à-dire un casting extraordinaire. Vous pourriez être une belle.
Oui, c'est vrai.
Jouvet 40, Anaïs de Moustier, ça peut donner l'idée à un metteur en scène, on sera ravis. Mais c'est une très belle captation, comme on dit, c'est plus qu'une captation, c'est-à-dire c'est une recréation d'une pièce par un cinéaste, en l'occurrence Benoît Jacquot.
Voilà. Moi j'avais vu l'année dernière au théâtre avec Tony Servillo Laurent,
le
grand acteur de Sorrentino.
Et puis pour vous Michel Esco, pas mal non plus, La vie de Galilée, Bertolt Brecht, mise en scène Antoine Vitesse, j'en bafouillerais, je suis d'accord avec vous, réalisation Hugo Santiago avec la troupe de la Comédie Française et notamment Roland Bertin dans le rôle titre, et ça c'est de l'XXL, de l'extrapiste comme on dit.
Vous aimez bien le théâtre en images, comme ça?
Parfois, on peut voir des choses. Là, j'étais un peu jeune pour le voir, donc je suis très content.
Là, il faut insister sur le fait que c'est en quelque sorte réinterprété aussi par un cinéaste. Hein.
Oui.
C'était édité par Lina, je le rappelle.
Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle que vous êtes à l'affiche de ce film Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky, qui sort mercredi prochain. Vous, Micha, on vous retrouvera dans Bouvard et Pécuchet au théâtre de la ville Espace Cardin à partir du 26 septembre. Et dans Bella Figura, mise en scène et texte de Yasmina Reza. en décembre au rond-point. Vous, Anaïs, au cinéma dans Jalouse et La Villa de Robert Guédiguian.
Oui.
Merci beaucoup à tous les deux.
Toutes les infos sur franceinter.fr, bien évidemment.
Générique et merci. Podcasts.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Wainfield.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Michel Esco, j'y étais.
Et moi, Anaïs Demoustier, j'y étais.